60 halakhot. Et je les ai toutes oubliées parce que je me suis occupé des besoins du tzibour. Amar Rabbi Yehuda bar Simon, ki ha'oshek ki'oleh el chacham, le début de ce verset, que justement l'oppression, la pression plutôt, va le rendre fou le chacham, c'est Moshe. Oshek she ashku oto datan ve'aviram, yoleh el chacham, irbevu oto. De quoi parle-t-on ici? On parle des ennuis que Datan et Aviram ont fait à Moshe Rabbeinu. Ils ont tellement tourné la tête que ça l'embrouillait. V'yabed et lev matana v'chit ale al datra shaya Moshe mitabed. Est-ce que tu crois que Moshe va se suicider? Mitabed, ça c'est se perdre complètement. Et la hem sheiknitu v'omru Yere Hashem Alechem Vishpot. Mais ceux qui ont dit, qui l'ont embêté, et qui ont porté en quelque sorte la chose devant Hashem, et en disant qu'Hashem juge, Vafu Makpid Veomer, et lui, il a aussi dit, Umeaz Bati El Paro. Moshe Rabbeinu, il a mal pris en quelque sorte les suites de son intervention auprès de Paro, puisque quand il est intervenu auprès de Paro, ça a aggravé la situation d'Ebné Israël, donc la pression de la souffrance d'Ebné Israël. Amarlo Akadosh Baruch Hu Ani Irtavti Alecha Shata Anav. Écrit dans la Torah que tu étais Anav, que tu étais humble, modeste. Ve'ata Makpid Al Dvaray, et tout à coup tu es Makpid sur mes paroles. C'est-à-dire, c'est à la limite, tu prends au sérieux, c'est-à-dire tu prends mal, en quelque sorte, le fait que je t'ai dit d'une certaine, je t'ai annoncé quelque chose, je t'ai demandé de faire quelque chose, et le résultat n'est pas immédiatement aussi positif que tu pensais qu'il devait être. Où elle est ta modestie? Tu devrais t'écraser devant moi, tu devrais accepter. Les choses sont comme elles sont parce que j'ai décidé qu'elles étaient comme ça. Chayecha im yesh lecha leda, chayecha yesh lecha leda, par ta vie tu dois savoir, sheneemar tov achrit davar mireshito. Littéralement, c'est la fin de quelque chose est meilleure que son début. Tova achritan shel Israël mirit, shenatati lahem bemitzrayim. La fin des bnei Israël sera bien meilleur que le début que je leur ai donné en Égypte. Chez Neymar, Vayomer Hashem El Moshe, Ata, tiré. Maintenant tu vas voir. Beota Sha'a, Biksha, Milatadin, Livgoabo. À ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu a fait des reproches à Hashem, la Milatadin a voulu tuer Moshe. C'est Elohim qui a parlé durement à Moshe. C'est la Midat Hadin qui lui parle durement. Amar lo Hakadosh Baruch Hu vechi basar vadam ani bemidotai sheini merachem. Est-ce que je suis un être de chair et de sang pour être capable de ne pas être merachem, de ne pas avoir pitié des Bnei Israël? Hashem lui a dit à Moshe, Ani Hashem. C'est le nom d'un Rachamim, d'un Midat Rachamim, le tétragramme. Mais Rabbi Yossi Bar Chanina Amar, Elohim, Al Hamitzrim, Ani Hashem, Al Israël. Rabbi Yossi Bar Chanina, il a dit, le Vaidaber Elohim, sa Midat Hadin, c'était sur les Égyptiens, et Ani Hashem, sur le Bnei Israël. Ça, c'est donc ce deuxième paragraphe. Donc, on est toujours dans le, la problématique de ce début de cette, cette première phrase où on a Vaidaber, parole dure, Elohim, Minatadin, et puis Vaidaber, donc ça c'est annoncé à Moshe Rabbeinu, puis ensuite il lui dit Vayomer, parole douce, Ani Hashem, je suis, et tétragramme, c'est-à-dire Midata Rachamim. Donc, il s'agit de la, tout, le tout dernier, lui, distribue Midata Din sur les Mitzrim, Midata Rachamim sur les Israël. Mais jusque-là, les autres ne disent pas comme ça. Les autres disent qu'il y a quelque chose chez Moshe Rabbeinu qu'il a rendu, disons, pas fou au sens de la folie, mais effectivement, qui lui a fait dire des bêtises, en fait, quand il a dit à Hachem, comment c'est possible que tu m'as envoyé et ça s'arrange pas? Pourquoi tu m'as envoyé? Comme s'il se mettait à juger Hachem. C'est impensable de, que Moshe Rabbeinu nous parle de la sorte à Hachem. C'est de la folie. Alors il amène, le Midrash amène ce pasouk qui dit que le Hoshek, la pression, et d'autres disent le Ketzibo. Quand on a un tzibourg qui dépend de vous et qui pèse, alors on peut être amené à faire des bêtises. Et Hachem dit, mais dans le Midrash, on voit que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il dit, mais moi j'ai écrit à ton sujet dans la Torah que tu étais anav, que tu étais modeste. Donc comment est-ce que c'est possible que tu tiennes ce langage-là, ce langage critique à mon égard? Comment est-ce que tu peux te permettre de parler ainsi de moi, en fait? Et il lui dit, effectivement, je te dis, tu dois savoir que la fin l'histoire du clan Israël, alors ça veut dire quoi? Le début, là, il ne te plaît pas. Le début, c'est de la souffrance pour les bénis d'Israël. C'est une aggravation même de la situation après que Moshe Rabbeinu soit intervenu. Et quand Hachem dit la fin est meilleure, tu dois savoir que la fin est meilleure. Alors, quelle est la fin? Est-ce que c'est la fin des temps? Alors, le Midrash dit, attends, maintenant tu vas voir. C'est-à-dire, par rapport à, au début, c'est plutôt là, c'est comme une fin. Maintenant tu vois. Il y a une double drasha ici, parce que dans notre Midrash, on a l'impression qu'il lui dit, maintenant tu vas voir, c'est-à-dire, tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte, etc. Tu vas voir les manifestations de ma puissance et tout ce que je vais faire pour le clan Israël et que le clan Israël va sortir de Mitzrayim, etc. Mais il y a une drasha qui va dans l'autre sens et qui dit « Ata tiré, maintenant tu vas voir. Mais puisque tu n'as pas voulu obéir tout de suite quand je t'ai demandé d'aller sortir les bénis d'Israël de Mitzrayim, alors la fin tu la verras pas. Maintenant tu vas voir, mais pas la fin. La fin, c'est, tu verras pas l'entrée en Eretz Israël. Donc la fin n'est pas la fin de l'histoire, dans l'absolu. Alors, est-ce qu'il faut entendre ce verset, enfin, ce principe que, la Tova, la fin sera toujours meilleure pour les bénis d'Israël que le début? Est-ce que c'est un progrès continu, c'est toujours meilleur, c'est-à-dire on va vers des jours toujours meilleurs? On n'a pas tellement l'impression que c'est comme ça que l'histoire est déroulée. Alors, ici, sur le tronçon, en quelque sorte, Égypte, sortie d'Égypte, ou bien, bon, là, effectivement, c'était meilleur. Mais ensuite, si tu regardes sortie d'Égypte, entrée en Eretz Israël, alors bon, c'est là aussi, c'est Enfin, tu peux monter, on peut monter avec le... Si on prend un... On prend de la distance par rapport aux choses. Et qu'on regarde, on peut dire, oui. Ça monte, c'est David Ameller, Beth Amikdash. Mais après, patatras, c'est... destruction du Beth Amikdash, construction du deuxième Beth Amikdash, c'est destruction de ce deuxième. Et le galout qui est sans fin. Là, du coup, on voit mal la fin qui est... Alors, on est obligé de dire, là, on parlerait de la fin de l'histoire. La fin complète de l'histoire. Je ne sais pas si c'est de ça que on veut parler. Ce dont on parle explicitement ici, c'est toi, tu dois savoir, et toi, tu vas voir maintenant que, effectivement, la fin, au sens de ce que je vais faire maintenant, dit Hachem, c'est mieux que ce qu'il y avait avant, que, effectivement, dans l'avant en question, il n'y a pas eu de... Il y a eu de la souffrance, enfin, etc. Et maintenant, tu vas voir les miracles que je vais faire pour les bénis Israël.
Quel serait le lien entre...
De
l'Égypte,
quoi, la sortie d'Égypte, donc l'évolution vers le mieux. Mais... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ta chokhma, elle se perd, tu comprends, tu connais pas ce. Il y a un principe que tu as oublié, c'est que Tova, Achid Davar, Mereshito. Normalement, ça devrait faire partie de ta chokhma. Donc s'il avait connu ce principe, ou s'il s'était souvenu de ce principe, de voir que le début n'est pas brillant, ça ne l'aurait pas dérangé. Il sait, Tova, Achid Davar, Mereshito.
Est-ce que c'est écrit ça, avant qu'il ne dise là ? Où est-ce que c'est écrit que la fin est meilleure que le début ?
Bon, c'est là, c'est enfin, le texte, c'est tout au clair.
Comment il faut savoir le sage ?
Semble-t-il, Moshe Rabbeinu, il aurait dû le savoir. Alors, je ne sais pas, du point de vue de la Chokhma, est-ce qu'obligatoirement la fin doit être. Est-ce que ça doit toujours être meilleur que le début? Si on va jusqu'à la fin.
Est-ce que c'est dans la lignée de la venue du Mashiach, ou obligatoirement, on se doit de dire que la fin est meilleure que le début?
Bah, si vous voulez, si vous le lisez comme ça, alors la venue du Mashiach, c'est une expression de la fin est meilleure que le début. Alors le Etz Yosef dit que Shachacham mitasek, c'est-à-dire premièrement dans le verset le Oshek dans Kohelet, c'est une pression. Bon, c'est pas une occupation, c'est vraiment une pression. Le Metsudat David, il dit que la pression en question, ça pourrait être les provocations permanentes de Datan et Aviram contre Moshe Rabbeinu. Ils le mettent dans un état de... dans une pression, en quelque sorte. Fait que cet homme sage, il perd la sagesse. Et il en vient, le Rachiv dit... Et il en vient à, en quelque sorte à provoquer Hachem, c'est-à-dire à parler mal contre Hachem. C'est-à-dire les pressions de Datan et Aviram, elles sont vues ici comme les raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu s'est laissé aller. à exprimer sa douleur de la souffrance du clan d'Israël à Hachem de cette manière-là. Alors il dit, Aoshek Yolel Chacham Yabed Etem Matanak, Shachacham Itasek Bedvarim Arbe. La première chose qu'on a dite, la pression, c'est s'occuper de beaucoup de choses. Et Dvarim Arbe, il dit Kogon Sfora, dans la marchandise aussi, c'est comme ça, si on veut être sur tous les fronts. Alors, ce qu'on lui a dit, c'est que ce qu'on a dit, il va perdre lève d'une viabed et lève matana. C'est ça dépend où on met les virgules. C'est-à-dire, la matana fait perdre le cœur, en quelque sorte. Mais on peut aussi dire ici chez minatora chez nitna matana. C'est-à-dire minatora chez nitna matana belibo chez la dame. Il va perdre sa Torah, en quelque sorte, qui a été donnée cadeau, en cadeau dans le cœur de l'homme. C'est marqué, Vaïten el Moshe, que beaucoup a donné la Torah à Moshe, Velamdu raboteinu, Shaya Moshe meshakeach, Hachenit nalo, be matana. C'est marqué dans Hazal, que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel pour étudier la Torah, Hachem lui enseignait, mais il l'oubliait au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire, avec son effort pour étudier, il n'y arrivait pas du tout. Ça, il l'oubliait au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'Hachem la lui donne en cadeau. C'est-à-dire, je te donne un cadeau, c'est-à-dire, ok. Je te le donne sans que tu aies besoin de faire d'efforts. Il a fait des efforts qui n'ont pas porté fruit. Du coup, Hachem la lui a donné. C'est pour ça que on parle ici d'une matana. Hachem lui a donné le matana. Ici, on peut se demander, justement, est-ce que, chez Moshe Rabbeinu, c'est peut-être un peu difficile à dire, mais on peut se demander, est-ce que ça ne vient pas, justement, du fait que la Torah a été donnée en matana à Moshe Rabbeinu, qu'il a pu oublier, qu'il a pu être désarçonné en quelque sorte par les ennuis que lui faisait Datan et Aviram, jusqu'à en perdre sa Torah en quelque sorte. Parce que dans le pasouk, on a l'impression que c'est le Sechel qui fonctionne pas comme il faut, quoi. Alors est-ce qu'il faut pas est-ce qu'on ne devrait pas se demander, est-ce que ça ne vient pas du fait que Moshe Rabbeinu, finalement, la Torah qu'il a, elle n'est pas chez lui parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il l'a acquise. Il a fait des efforts, mais ils n'ont pas porté de fruits, donc ensuite on lui a donné. Donc quelque part, la Torah qu'il a, elle a été donnée. On ne peut pas dire sans effort, mais il n'y a pas de causalité ici du tout entre les efforts de Moshe et le cadeau. C'est pas les et la Torah. Les efforts n'ont pas produit, au sens habituel du sens produire, la Torah. Et alors peut-être qu'effectivement, si les efforts de Moshe, si l'étude de Moshe avait produit la Torah, c'est-à-dire lui avait permis de se souvenir de la Torah, alors peut-être que son sechel aurait été modelé, puisqu'il y a toujours un effet réflexif. Quand tu utilises un muscle, tu utilises quelque chose, ben il se renforce, il devient plus fort. Donc le sechel de Moshe, s'il avait produit la Torah, au sens de produire, au sens s'il avait été capable de produire le fait de retenir la Torah, de ne pas l'oublier, alors peut-être que son sechel aurait été modifié, si vous voulez, de telle sorte que rien ne puisse le faire bouger. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Parce qu'au fond, d'accord, c'est marqué Matana et c'est ça qui permet de dire qu'on parle de Torah. Mais le fait que la Torah ici ait été présentée comme étant une Matana, et comme étant que cette Matana, c'est le côté, on peut presque dire, c'est le côté Matana de la Torah qui a fait qu'elle a été perdue. Tu vois, c'est marqué. Et même si je le lis comme la suite du début, c'est parce que l'oppression, la pression de Nathan et Abiram rendent Moshe me boulebal, c'est-à-dire ça l'empêche d'être clair. Mais est-ce que cette capacité qu'ils ont, eux, de rendre Moshe dans le flou, de le mettre dans le flou, de ne soit pas aussi clair, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça n'a été possible que parce que la Torah de Moshe était une Torah reçue en Matana? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, semble-t-il, le travail d'engrammage ou de gravure de la Torah dans la mémoire ou dans le sechel de Moshe Rabbeinu. Il a bien essayé, mais ça n'a pas marché. Ça ne fonctionnait pas. Il a fallu la lui donner, la Torah. Peut-être que c'était le défaut de la chose, c'est-à-dire que, quelque part, il y a dans le rapport de Moshe Rabbeinu avec la Torah une imperfection initiale qui fait que il peut perdre de sa Torah si on le met dans un état de bilboule, de ne plus savoir exactement où il en est à cause de cette pression de Nathan et Aviram.
J'ai une question. Comment est-ce qu'on pourrait le nommer ce qui me vient, c'est qu'on l'appelle pas Moshe Rabbeinu, on l'appelle Chacham Zeh Chacham. Ça veut dire que tout ce qui est de la Torah à Moshe Rabbeinu, sans qu'il fasse travail, il reste qualifié de Chacham. Or, le Chacham, c'est une personne au contraire qui travaille, qui développe une sagesse.
Non, mais la sagesse de Moshe Rabbeinu était très grande. Je n'ai pas l'impression que c'est une question de degré de sagesse auquel il n'est pas parvenu. Il est arrivé au degré de sagesse où il devait arriver. Mais on le dit dans un autre contexte, mais c'est quand on dit mi yaale bar Hashem ou mi yakum min kon kutcho. Qui est-ce qui est capable de monter sur le plan d'Hashem? D'accord, ça c'est une chose. Mais c'est pas parce que tu as été capable de monter que tu arriveras à t'y maintenir. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça ne s'est pas maintenu, puisqu'il le perd à cause du essek de Nathan et Aviram. Parce qu'il il l'oblige, en quelque sorte, on peut presque dire, à se disperser, avec leurs questions sans arrêt. Donc s'il se disperse, il n'est pas capable de garder la Torah, en fait. Mais pourquoi il n'est pas capable? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est parce qu'il n'y a pas eu de gravure, en quelque sorte. Ensuite, on dit que un mitasek betroke tzibur, mais chacun art talmudo, effectivement. Il oublie son étude. Afamé betroke tzibur, sheu mitzvah. Filoachi, Shkar Talmudo, comme Rabbi Yeshua Ben Levi va le rapporter. Amar Rabbi Yeshua Ben Levi, effectivement, donc. Effectivement, ces 60 halakhot que Rabbi Yehuda Ben Pedaya m'a enseigné dans Kriyat Shata Kever J'ai tout oublié parce que je m'occupais du Tsoké Tsibo. On a l'impression comme ça, que c'est une question de... Il y a un prix à payer.
Oui, celui qui serait dans cette tour d'ivoire aussi, à ce moment-là, il y aurait aussi peut-être un prix à payer.
Oui, mais là, c'est peut-être nécessaire de le dire ici, parce qu'on pourrait s'imaginer que finalement s'occuper du Tzibourg, c'est la même chose qu'étudier. Bon, s'occuper du clan Israël, c'est comme s'occuper de la Torah.
Oui, c'est
sur le même plan. Et donc on pourrait penser que, bon, ben il va... C'est marqué que la Torah, quand on s'occupe de la Torah, on étudie la Torah à un endroit, la Torah, elle se donne à d'autres endroits. C'est-à-dire, tu travailles ici, puis ensuite tu comprends quelque chose qui est complètement à un autre endroit. Alors on pourrait imaginer ça sur Torah et Tzoké Tzibourg. C'est-à-dire que puisque tu étudies le clan Israël, au sens que tu étudies la Torah dans cette version de Tzoké Tzibourg, alors la Torah, on ne dit pas que tu deviendras encore un plus grand Talmid Chacham, mais au moins qu'elle ne se perde pas. Là, on a un peu l'impression que c'est inéluctable.
On pourrait dire que c'est un problème de temps. Comme vous disiez, sur que ces cours sont tellement nombreux qu'il faut qu'il passe beaucoup de temps et après il n'a plus temps d'étudier. Donc c'est juste qu'il ne peut plus gérer son temps d'étude et donc il perd.
On disait de. On disait de Rabbi Israël Sarantar qu'il. Il enseignait à ses élèves qu'elle allait devenir des rabbinim, donc ils devraient s'occuper du Tzoké Tzibourg. Il leur enseignait à parler avec les gens, ce n'est pas des choses très profondes, mais il faut parler avec eux, et en même temps continuer d'étudier dans leur tête. Être capable de... Ça continue de tourner, ça avance, même si tu dois donner des conseils ou t'occuper de... savoir si on a assez de chemin à choule ou bien si, etc. Parce qu'il entraînait ses élèves à être capables de le faire. Bon, l'idée qu'il faut être capable de faire deux choses à la fois, peut-être deux, oui, peut-être que ce qu'on veut dire ici, c'est trop de choses à la fois.
Alors, en même temps, on a l'impression que quand quelqu'un est à un certain niveau, je ne dis pas, ça peut être pour tout le monde, mais quand quelqu'un est à un certain niveau, à la fois... Tout ce qu'il fait pour le Tzibour est une source pour lui d'enrichissement de Torah, et tout ce qu'il fait, c'est aussi un enseignement, même les choses ordinaires, il y a toujours un enseignement de Torah dans ce qu'il fait, même dans des petites choses.
Mais peut-être que ça ne marche que si on voit les choses comme étant des petites choses, mais si je... Celui qui est au sec, qui fait sienne les affaires du Tzibourg, oui. J'ai pas mieux pour l'instant. Donc, Oshek chez Ashku Oto Datan Verviram. Les ennuis, donc les pressions que lui ont fait subir Datan et Aviram, Yohlel Chacham Irbevu Oto. Ils ont troublé au sens de. Ils n'y voyaient plus clair, mon cher Rabbi. Viabed et Lev Matana. Alors ici, Viabed et Lev Matana, c'est-à-dire, la Torah, bien qu'elle lui ait été donnée de Matana, pour qu'elle soit toujours dans sa bouche et dans sa descendance, celle de sa descendance, malgré tout, Nishkachat Mimenu Besha Shenitasek Bedvarim Arbe. Néanmoins, elle l'a quitté, sa sagesse. Alors le Midrash demande, mais le Chita Aleal d'Atrash Aya Moshe Mitaved, est-ce que tu penses un seul instant que Moshe Rabbeinu, il était en quelque sorte suicidaire d'aller les attirer dvarim lifnei Hashem lomar ou meas bati el paro etc. et qu'il a oublié. Est-ce que tu penses que c'est suicidaire ça de dire ça devant Hashem? Donc il est vraiment elahem sheiknitu ve'amru lo yireh Hashem alechem ve'ishpot. Mais ce sont eux. Puis il se suicide. De jeter les paroles pareilles devant Hashem. L'Omar, ou Meas Batiel Paro, il dit, depuis que je suis arrivé chez Paro, ça s'est gâté. Veshachar, et que Moshe a oublié Sod, Dvar Hashem, Sod de la parole d'Hashem, chez Amarle, Mitrila Ani Yadati, qui lo iten etchem. Au début, Hashem lui avait dit, je sais que Paro ne vous laissera pas partir. Ela al korchach. Mais il ne vous laissera partir que à son corps défendant, le fiché Knutu, ou bo le klalkas, va le klaltaou. Alors lui, il dit que la pression qu'ils lui ont mise, elle l'a amené Moshe à se mettre en colère. Et en colère, ce qu'il a fait c'était mauvais.
En colère contre qui?
Contre Datan et Aviram. Donc l'idée, c'est que, effectivement, c'est eux qui l'ont amené là.
Et en revanche, on pourrait peut-être penser qu'à ce moment-là, quand on s'occupe des Tzorketi Tzibour, on peut souvent être amené à s'emporter, à s'énerver, et du coup, on oublie un peu sa Torah, justement.
C'est ça. Ben, fou, Makpi, on met à se battre El Paro. Et du coup, lui aussi, Moshe, à l'égard de... Eux, ils lui ont fait des reproches, et tu fais rien pour nous, etc. Et après, Baruch Hu lui fait le reproche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le reproche, c'est... Anir tafti alecha shata anav. Moi, j'ai écrit dans la Torah que tu étais anav. Humble. Si quelqu'un est humble, il ne peut pas être makpid. Ça veut dire, je ne fais pas de cas de moi et je ne vais pas me braquer sur quoi que ce soit. Vous pouvez me dire, me faire, etc., je reste serein. Le hanav, c'est celui qui, dans toutes les situations, effectivement, il y a d'autres choses, mais dans toutes les situations, il reste serein. Et c'est ce qu'Hachem lui dit, j'ai écrit que tu étais hanav, et maintenant tu m'accuses. Alors, Chayecha, par ta vie, Yesh lecha leda, tu dois savoir. C'est une drôle de phrase. Chayecha, Yesh lecha leda, tu as à savoir, Shenema, Tov, Achit davar mereshito, Tova achitan shel Israël, leur fin au Bnei Israël sera bien meilleur que leur commencement, le commencement que je leur ai donné en Égypte.
Il paraît que Khan veut intervenir.
Ben, qu'il en intervienne.
Mais on ne l'entend pas, il paraît.
Évidemment qu'on ne l'entend pas. J'ai fermé le micro. Nos parleurs.
Bon, c'est bien, tranquille.
Vous voulez parler, Khan?
Alors.
C'était pour dire que de toute façon, l'expérience montre que c'est très difficile pour un rab d'étudier et en même temps d'être que le tzibour déteste le limoud quelque part. Et je pense qu'il y a une pression contre le limoud du rab. C'est quelque chose d'évident dans les communautés. Et ça, c'est une. Je ne sais pas d'où ça vient, mais le tzibour déteste que le rab étudie. Il ne supporte pas. J'ai constaté ça plusieurs fois, à Strasbourg et ailleurs. Une sorte de haine contre le limoud. Alors, quand le rab a le malheur d'étudier, le tibour fait n'importe quoi pour le coincer. Il y a des tas d'histoires comme ça dans l'Europe de l'Est. Une sorte de haine du limoud. Ça, c'est sensible.
Bien.
Vous pouvez recouper le micro.
Ça vaut mieux.
Non, pourquoi? C'est intéressant ce qu'il dit. C'est... Ah non?
Moi, je voulais peut-être amener l'exemple de Moshe Rabbeinu qui a oublié son enseignement au moment de l'épisode avec Zimri.
Oui, mais ben, là-bas, c'est pas qu'il a complètement oublié, c'est que on aurait pu l'accuser de Prodomo, parce que lui, il était en cause avec ça. Parce qu'ils lui ont dit, et toi, ta Midianite, qui te l'a permise? Donc s'il avait réagi, lui, on aurait dit, il réagit parce que on l'a mis en cause.
Justement, c'est peut-être ça aussi l'idée d'être confronté au tzibour, parce qu'on est aussi, quelque part, partie prenante.
Oui, non, mais là, c'est pas seulement... Ici, c'est pas partie prenante aussi. Ici, c'est que directement, il était visé. C'est sûr que le tibour, si c'était lui qui était intervenu, on aurait dit, voilà, il s'est vengé de ce qu'on a mis sur la place publique, le fait que lui, il se permet des choses qu'on ne permet pas aux autres. Bien qu'évidemment, lui, il l'a épousé avant Matan Torah, et puis en plus, il y aurait... Non, je crois pas, je crois que c'est vraiment ça, je crois que, bon, on peut le dire sous forme de haine de Limoud, c'est le dire de l'autre côté en fait, mais ici, Rabbi Yoshua Ben Levi, quand il s'est occupé du Tzorke Tzibour, j'ai pas le souvenir qu'il l'ait fait parce qu'on l'a obligé de le faire. Donc c'est pas le Tzibour qui lui a qu'il a mis dans cette situation. Il s'est occupé du tzibour, je crois, parce qu'il pensait qu'il devait le faire. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et du coup, il dit ce qu'il dit. Mais je ne crois pas que ce soit comparable à Tatan Aviram ou bien de cette haine du Limoud dont vous parlez. Bien. Alors ensuite, Tov Achrich Davar Mereshito, c'est proche du. Pourquoi est-ce qu'on amène ici ce principe-là? Parce que c'est le pasouk d'après. Le pasouk dit qu'il y a Oshek Yolel Chacham Yabed Lev Matana, et le pasouk d'après c'est Tov Achrit Davar Mereshito, Tov Erech Ruach Migvar Ruach. Bon, pour l'instant, Tov Achrit Davar Mereshito, c'est effectivement ce qui est marqué juste après. Donc il le dit comme dans la suite de ce qui a été dit. C'est-à-dire, si effectivement en s'occupant de trop de choses ou en s'occupant du tzibour, comme ça a été le cas pour Moshe Rabbeinu, on risque de perdre la Torah, et donc il faut admettre, il faut cette posture de Anna, c'est comme ça que le Midrash l'introduit. Pour cette posture de Hanava, pour admettre que tu t'occupes du tzibour, mais ça ne donne pas obligatoirement tout de suite. Ouais, Moshe Rabbeinu, il s'est occupé du tzibour, au sens, il a fait ce qu'Hachem a dit qu'il fallait faire pour le tzibour, et ça n'est pas sorti, donc il fait le reproche à Hachem. Alors on lui dit, tu dois savoir qu'on passe par du négatif pour aller vers du positif. Alors, ce que je ne sais pas, ce que je vous ai dit, c'est qu'est-ce que c'est que le... Il faut comprendre éventuellement le Réchito, mais le Achrit Davar. Alors Rashi dit que c'est la fin de quelque chose est meilleure que son commencement. Bon, alors le.
Ça rejoint ce que vous avez ramené au départ, c'est-à-dire que puisque la Torah est une matana, et que Moshe Rabbeinu l'a oublié d'une certaine façon, parce que c'est une matana et qu'il faut passer par un certain nombre, on va dire, d'étapes, ou pas d'épreuves. Ce qui est vrai pour Moshe Rabbeinu est vrai pour tout le clan Israël qui a reçu la Torah comme une matana.
C'est sûr. Oui, c'est vrai. Oui. Alors lui, je vois juste que le pirouche du Marzou, là dans la colonne de gauche, hein, vous l'avez pas. Le Marzou, il dit que le pasouk qui est juste après, donc Tovachid Davar Mereshito, c'est le roi HaKodesh qui l'a dit à Moshe Rabbeinu. Lama avanta et libcha, pourquoi tu as perdu ton cœur, et pourquoi tu t'es perdu à parler comme ça à Hachem? Tov Achid Davar Mereshito. C'est un principe, ça sera meilleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est immédiatement meilleur. On n'est pas encore dans le Acharit Davar. Qu'est-ce qui s'appelle Acharit Davar? Le Réchit, c'est assez facile, hein? C'est pas trop facile non plus, mais qu'est-ce qui s'appelle Acharit Davar? La fin de quelque chose. Quand est-ce que ça commence, la fin? Oui, enfin c'est très juste. On dit, dans Pirkei Avot, on dit Ezehu Chacham Aroet Anolad, c'est-à-dire, il voit les conséquences ultimes de ce qui est là. Peut-être qu'il ne voit pas ce qui se passe au milieu, comment on y arrive, par quel chemin on arrive au but. Et on voit aussi que dans Roi HaKodesh, ça se passe comme ça aussi. C'est-à-dire que ce soit Korach qui pense qu'il a raison puisqu'il voit dans sa descendance Shmuel, alors que Shmuel, c'est la descendance de ses enfants parce qu'ils ont fait tchouva, donc il y a eu rupture par rapport à lui, grâce à la tchouva. Et Shmuel est effectivement le descendant des enfants de Korach. Mais Korach qui voit pas que il y a un petit problème, il faut la tchouva de ses enfants qui doivent se couper avec lui. Puisque lui, il se perd, et eux, ils sont sauvés parce qu'ils font tchouva. Et Madame Potiphar aussi, elle voit une descendance commune avec Yosef. Elle ne voit pas que c'est pas elle, mais c'est sa fille adoptive. Comme si, là où il y a le moi fait de l'ombre, quelque part, et on n'arrive pas à voir la naissance du processus, on s'imagine qu'on a tout vu, on n'a même pas tout vu. On n'a même pas vu vraiment le réchit, on n'a pas vu le début non plus. Donc on voit des gens qui ont du roi HaKodesh, et qui sont induits en erreur par le roi HaKodesh, parce qu'ils voient, mais ils voient mal, ils voient la fin, et ils s'imaginent que cette fin est complètement liée avec eux, et c'est pas comme ça. Alors là, ça c'est un autre épisode. Mais ici on dit justement, la Chochma, elle te permet de voir les conséquences, mais peut-être pas toutes les conséquences, c'est pas le chemin qui y mène, comme vous dites, c'est une bonne remarque. On ne voit pas, on est obligé de passer pour demander ce qu'il faut faire, il faut faire ce que la halakha te dit. Ah, et je vois pas en comment ce que je... La halakha me dit, il faut faire un pas dans cette direction. Et moi, je vois qu'on va arriver là-bas, et je vois pas que... Alors, le premier pas va pas dans la bonne direction.
Mais la remarque, elle est bonne, parce que ici, quel serait le sens d'une chokhma de ce type-là, qui ne verrait pas qu'en fait, ici, par le roi HaKodesh, la fin des choses, et qui ne pourrait pas relier chaque étape qui amène à cette fin. C'est plus de la chokhma, ça,
non, mais ce qu'on lui a dit, c'est quand on dit qu'il il n'a pas vu le tov, c'est pas obligatoirement dire que tu vas le voir, c'est un savoir. Tu dois savoir que la fin est bonne. Savoir ce qu'on doit faire dans l'immédiat, il n'y a que la halakha qui puisse me dire ce qu'il faut faire. Je ne veux pas regarder les conséquences. Je ne peux pas me prendre fonction de l'information que j'ai, on va arriver là. Personne ne t'a dit qu'on ne va pas faire le tour du monde avant d'y arriver. Dans la vie des gens, il y a des gens qui ont... Par exemple, qui ont réussi à se sauver en partant dans la mauvaise direction. En partant pour des souffrances bien plus grandes. C'est toute l'histoire de ces gens qui se sont sauvés pendant la guerre, qui ont été sauvés pendant la guerre parce qu'ils ont été déportés en Sibérie. Combien de larmes ont été versées à ce moment-là, quand on a déporté les gens de Pologne en Sibérie. Les gens pensaient que c'était la mort, et c'est les seuls qui ont survécu. Ceux qui n'ont pas été déportés en Sibérie, ils n'ont pas survécu. Donc à la limite, pour survivre, il fallait aller dans un autre enfer. Pour ne pas être dans l'enfer nazi, il fallait aller dans l'enfer sibérien, pas seulement stalinien, mais sibérien. Et ce qui semblait être un chemin de mort. Et c'était le chemin de la vie. Bon, ils ne sont pas tous arrivés à bon port, mais certains se sont sauvés alors que les autres n'ont pas pu se sauver du tout.
c'est aussi parce qu'à un certain niveau de Chorma, la fin, elle est tov. C'est-à-dire que...
Ah, vous voulez dire qu'on est capable de,
ouais,
de voir que c'est du bien.
Malgré tout, c'est du tov. Quelle que soit cette fin, qui, je ne sais pas.
Non, mais je crois qu'ici, dans le tov, c'est un...
C'est
un tome visible.
Rabiente, quoi. On n'en sait rien. Sauf à dire que c'est effectivement un niveau de Chochma tel que, oui, c'est...
C'est du Gamsou et Toba.
Gamsou, oui.
Oui, mais...
Non.
Donc Gamsou le Toba, ça veut dire que c'est pas Gamsou Tov. Gamsou le Toba. Ça aussi, c'est pour le bien. Et vous avez raison, c'est peut-être pas cette phrase-là, mais on disait, on rapporte souvent de Razonich, que les gens, en Israël, les gens avaient pris l'habitude de dire « Yétov, ce sera bien ». En Yiddish aussi, c'est un goût, ça sera bien. Et le Razonich, il reprenait les gens qui disaient ça. Il disait, on n'a pas le droit de dire « ce sera bien », c'est déjà bien maintenant. C'est pas que maintenant c'est mauvais et demain ce sera mieux. C'est bien maintenant aussi. Seulement toi tu vois pas en quoi c'est bien. C'est peut-être pas agréable, c'est peut-être pas doux, c'est peut-être pas etc. Mais bien, mais c'est bien. Donc quand Moshe Rabbeinu s'est exprimé de la sorte, alors la Midat Hadin a voulu le tuer. Et c'est ce que le verset Vaïdaber Elohim El Moshe veut nous dire. Akadosh Baruch Hu lui a dit... Qu'est-ce que tu crois? Tu me traites comme si j'étais un roi de chair et de sang, qui pourrait ne pas être Merachem, c'est-à-dire qui peut très bien être mauvais et ne pas avoir de sensibilité, ne pas avoir de tendresse, etc. Moi, je ne suis pas... Je suis la tendresse, je suis la sensibilité. Donc évidemment que je tiens compte de la souffrance des gens. Ani, Hachem, je suis le Rachamim. La dernière chose qu'il dit ici que ce Rabbi Yossi Bar Hanina, il ajoute, semble-t-il, il dit Elohim dit à Vaidaber Elohim El Moshe, c'est comme si Hachem montre à Moshe Rabbeinu ce qu'il va faire aux Égyptiens. Et Ani Hachem, ça parle sur les Bnei Israël. C'est un petit peu difficile à lire en fait.